Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium. Attention, générique.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue, c'est sérieux, sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voies du scénarium. On va passer une heure ensemble, c'est beau micro, mais je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de l'inénarrable Romain. Ça va Romain?
Salut, ça va.
Et je suis également en compagnie de Pauline. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Pauline, tu es secrétaire de Ludiquement Lourou, c'est ça? Je me suis pas trompé?
Non, c'est tout ça, c'est tout à fait ça.
Et du coup, on va parler d'un événement qui a lieu dans pas très longtemps et on parlera aussi de l'association dans sa globalité et certainement un peu de jeu de rôle puisque c'est une émission consacrée au jeu de rôle à la base. Voilà, quoi dire de plus?
Ben moi, en fin d'émission, je parlerai de deux fous lancements qui arrivent là. Il y en a un qui est commencé, c'est Fever Town, et puis un autre qui va arriver, donc Hell of a Town.
Hell of a Town.
Des jeux de rôle de citadins. Et puis, parler un petit peu de l'Angers Geek Fest aussi, qui arrive et on pourra jouer.
Eh ben, c'est top ça, ça fait pas mal de choses au programme. Est-ce que, en mise en bouche, je vous parlerai d'un truc qui n'est pas tout à fait du jeu de rôle? Comme ça, on se met à l'aise, tranquille. Moi, je voulais parler d'un roman qui me faisait de l'œil. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Et j'ai passé un excellent moment. Je vais vous résumer le truc. C'est un roman. Alors, je vous donnerai le titre juste après. Imaginez un monde où, en fait, depuis des milliers d'années, selon un certain cycle, il y a un roi démon qui débarque dans le monde. Et peu de temps après, il y a un héros qui va aller le fighter. Il y a une tradition, il y a plein d'éléments comme ça, et voilà, il y a un costume spécifique, il y a des objets que le héros doit avoir, et on va suivre un personnage qui s'appelle Yui, qui est une jeune fille, et qui a décidé d'essayer d'aller plus vite que la tradition habituelle, puisque le roi démon qui est en train d'arriver va déjà plus vite que la moyenne.
Et il du casse coup, des choses un peu là en chemin ou
En fait, il arrive à conquérir plus de territoire beaucoup plus rapidement et il se fait des alliés en fait avec les gens qu'il a conquis.
Conquis.
Et du coup, lui en fait va gruger un petit peu à la manière d'un jeu vidéo pour avoir des stats. Elle va par exemple le héros, il peut avoir une classe de personnage. Mais pour avoir la classe, il faut avoir des conditions. Par exemple, si tu viens d'une famille noble, tu peux avoir la classe princesse. Si une des classes les plus bourrines de cet univers-là, c'est la classe orphelin. Mais pour ça, il faut pas avoir de parents. Et lui, elle a des parents. Alors, elle a demandé à être déshéritée, mais
elle était pas trop d'accord. En même temps,
et tu peux en
c'est
fait.
Compliqué.
Tu peux être multiclassé. Et déjà, si je vous donne ces infos-là, c'est que vous vous rendez compte que c'est bardé d'humour et ça marche très bien. Yui, elle va faire preuve d'inventivité pour aller retirer l'épée du héros qui est plantée dans une grande stèle et que personne n'arrive à enlever.
En même temps, est-ce que les gens essayent parce qu'ils savent qu'il y a un héros qui va arriver pour le faire.
Mais les gens, ils essayent.
Ah, quand même.
Ils essayent d'utiliser leur magie puisqu'il y a de la magie aussi.
On sait qui c'est le héros ou ça peut être n'importe
ça
qui.
Ça peut être un nouveau héros. Ça peut être un nouveau héros. Savoir que. Alors, je vais pas tout vous dévoiler non plus, parce que mais il y a des héros dont on se rappelle du héros du temple de l'eau, on se rappelle du héros au temps inégalé, on se rappelle de plein de héros en fait. Et il y a des traditions. Et lui en fait, elle va très vite avoir un compagnon qui s'appelle Ken et qui va lui être un petit peu garant de la tradition et rappeler aussi au lecteur quelles sont ces règles-là. Moi, ce que j'ai trouvé très vite assez drôle, c'est que j'ai identifié beaucoup de références à un jeu vidéo qui est cher à mon cœur, La Légende de Zelda. Puisque effectivement, le héros a par habitude une tunique verte. Voilà, l'épée dans la stèle, il y a plein d'éléments en fait qui me rappelaient le The Legend of Zelda. Et je n'ai appris qu'après avoir fini le livre que ce livre est une parodie à la base de Zelda. Bon, si je l'ai identifié, vu que je suis un peu bête, c'est que c'était bien fait. Le livre, ça s'appelle « Comment vaincre un roi démon en 10 étapes ». C'est d'Andrew Rowe et c'est publié aux éditions Eldercraft. Mmh. Eldercraft qui est principalement un éditeur de jeux de rôle à la base et qui commence à faire plein de nouvelles choses. Ils ont fait des romans du coup et là, ils sont en train d'annoncer une nouvelle gamme qui devrait sortir prochainement. Si j'ai bien compris, pour 30€, donc soit le prix d'un écran de jeu avec 2-3 feuilles de perso, on aura l'intégralité d'un jeu complet et quelques scénarios pour pouvoir jouer dans un gros écran grimoire. Ce qui serait plutôt cool en fait, parce que ça permettrait de consommer sa petite partie une fois de temps en temps, sans se prendre la tête.
C'est eux qui avaient fait des jeux de rôle solo avec une bande son un peu des
zones. Ouais, il y avait eu un Cthulhu. Le Pack d'Innsmouth. Il y
dans
avait.
Aussi.
Ouais, celui dans l'espace, qui était très cool. Des jeux solo, ouais, qui étaient bien. Donc voilà, moi j'ai découvert le bouquin, je me suis dit tiens, est-ce que c'est bien ? J'ai passé un excellent moment, c'est pas très compliqué à lire, hein. Ça se lit assez bien, il y a beaucoup d'humour, il y a plein de références, c'est vraiment j'ai vraiment adoré. Alors après, c'était pas difficile à convaincre vu que je suis un grand fan de Zelda déjà de base, mais ça marche bien, mes enfants l'ont lu et ont kiffé.
Ah oui. Donc à partir de quel âge ?
Ça demande quand même un petit peu de niveau de lecture, mais à partir de 10 ans, sans trop de problèmes. Il n'y a pas de violence outre mesure, il y a beaucoup d'humour. Si vos enfants, ils ont joué un petit peu à Zelda, en vrai, essayez, quoi.
Mais en fait, l'illustration de couverture, moi, je trouve que ça fait Breath of the Wild.
Mais complètement. Ouvre-le, parce que sous la jaquette.
Sous la jaquette.
Non, mais là, juste là devant.
Ouais.
Là, clairement, on a Link de dos. Hein. C'est un personnage en tunique verte, cheveux blonds, avec une épée en bondoulière, avec un liseré bleu et un arc.
Mais bon, là, pour le coup, c'est une jeune femme.
Là, c'est une jeune femme, ouais. Qui, à la base, voulait juste accélérer les choses. Elle voulait pas forcément devenir héros. Hein. Donc peut-être qu'elle n'arrivera pas à être héros à la fin. Ça, faudrait le lire pour arriver à
le savoir.
À le savoir. Je te laisse redonner les références, tiens. Je t'en prie.
Comment vaincre un roi démon en 10 étapes d'Andrew Rowe aux éditions Eldercraft. 18€.
Ça va. Pour combien de pages ?
Oh, ça, je sais pas.
Oh, tu fais pas d'effort.
J'aurais 230.
Allez, 230 pages. Voilà, vous passerez par un mauvais moment et je suis pas persuadé qu'Andrew Roe ait écrit d'autres choses. J'ai pas fait sa bibliographie, mais en tout cas, on aimerait bien qu'il fasse une suite.
Alors ça me dit la fin qu'il est ouverte. Était game designer pour Blizzard Entertainment, Cryptid Studio et Obsidian Entertainment. C'est plutôt des choses de jeux vidéo, ça.
Ouais, c'est ça. Blizzard, c'est World of Warcraft. Obsidian, je ne sais plus. C'est pas du Fallout. Ils n'ont pas fait Fallout, Obsidian.
Il écrit également des jeux de rôle sur table.
Eh ben voilà.
Donc on attend le jeu.
La boucle est bouclée. Parfait. Le gros blanc.
Je sais plus quoi dire.
Non mais je ne peux pas faire que parler non plus.
Pauline.
Eh bien oui, on va s'orienter vers Pauline maintenant. Pauline, bonjour.
Bonjour.
Alors, Leroux, je vais y arriver. Ludiquement Leroux.
Oui, Ludiquement Leroux.
Ludiquement Leroux. Qu'est-ce que cette association et quel est son historique?
Alors, c'est une association qui
a... Alors, il va falloir parler plus proche. Pardon. Voilà.
Alors, c'est une association qui a été créée en 2021. Donc, quelques années. On est une association au départ de jeux de plateau, plutôt experts. On aime le gros jeu qui dure bien longtemps. Ça nous fait pas du tout peur.
Partie de Gloomhaven tous les week-ends, quoi.
C'est bien. C'est quasiment ça. je crois pas qu'on a fait encore de Gloomhaven, mais on est pas trop jeu de figurines. C'est vraiment plutôt. On a commencé avec plutôt de l'Eurogame. Donc tout ce qui est jeu de pose d'ouvriers, etc. On n'a pas beaucoup d'améritrage avec des figurines. On en a un peu, on en a de plus en plus.
Knizia,
Knizia, ouais, voilà. On aime bien Knizia, on en a pas mal. et en fait, plus ça va. Au début, ils étaient quatre quand ils ont créé l'association. Moi, je l'ai rejoint au début juste comme ça. Et puis j'ai commencé à m'y intéresser et je suis secrétaire maintenant depuis quelques années. Et en fait, l'association grossit. On est à peu près une trentaine de membres aujourd'hui. On est très mixte. On est une association autant de filles que de garçons. Et ça, on aime bien le dire aussi parce que c'est assez cool. Et on se réunit les mercredis et le vendredi soir à partir de 20h30. Et même les vacances scolaires et même à Noël. On est des accros.
Ah oui, jamais vous arrêtez, quoi.
Non, sauf les jours fériés, mais sinon on s'arrête jamais, même l'été. Même l'été on s'arrête pas. On a un peu de mal.
Et vous vous réunissez où alors?
Alors nous, on se réunit au Louroux-Béconnet. Donc c'est juste
c'est
après.
C'est dans le nom. C'est à l'ouest d'Angers.
Ouais, c'est
à 20 kilomètres, c'est ça?
C'est à une vingtaine de kilomètres. C'est après Beaucouzé. Vous avez encore une vingtaine de minutes de route et en fait on est dans une toute petite ville et il n'y a pas beaucoup d'associations dans le coin et on n'est pas que du Louroux-Béconnet. Faut savoir qu'on draine énormément. On a des gens d'Angers qui viennent au Louroux-Béconnet.
Clairement.
On a même des gens de Mazé. Qui est à l'autre bout du département.
Ah ouais. Eh ben.
On a la Pommeraye. On commence à être connu parce qu'on a une asso qui est assez cool, détente. C'est pas parce qu'on fait du jeu expert qu'on est fermé. En fait, on a beaucoup de joueurs qui découvrent les jeux de plateau et on commence doucement avec des petits jeux et on les amène tout
des
doucement.
Des petits jeux experts.
Vers de gros jeux experts.
Ouais, vous bâchez pas les gens qui viennent demander un Flip 7, quoi.
Pas du tout. Au contraire, on s'amuse bien avec un Flip 7. C'est une asso où on va jouer au jeu de plateau dès le début et comme ça dure à partir de 20h30, nous on est en campagne, on n'a pas d'horaire de fermeture. On peut traîner
l'avantage.
Un peu.
Oui, d'ailleurs, vous jouez où exactement?
Alors en fait, on joue au domaine du Paix. Ça fait partie de l'Alaï. C'est une salle pour les enfants normalement et en fait nous on y a accès le soir et les week-ends.
Ok. Voilà. Et les enfants ils ont quand même le droit de venir.
Alors en fait c'est une salle qui est plus tellement utilisée.
Okay.
Donc en fait elle est ouverte aux associations et on est plusieurs associations à utiliser la salle avec des créneaux donc du coup voilà.
Aujourd'hui c'est combien de membres l'association à peu près?
À peu près une trentaine.
Okay.
On a des gens qui arrivent, on a des gens qui repartent, on est à peu près une trentaine.
Ok. Il y a un événement qui est organisé prochainement, on en parlera juste après une première pause musicale. Je peux piocher dans tes...
Ouais, vas-y.
Allez.
C'est un peu en lien avec ce dont je vais parler plus tard dans l'émission, mais...
Ouais, okay. Peu importe laquelle, tu m'as dit, hein.
Ouais.
Allez, on va prendre... Roger Rabbit, allez. Allez, on se retrouve tout de suite après sur le 100.5 de Radio G.
Radio G. www.radio-g.fr.
Et vous êtes de retour dans les voix du Scénarium. C'est toujours ces beaux micros. Je suis toujours en compagnie de Romain et de Pauline.
Et je tiens à préciser, c'était pas une musique de Roger Rabbit, le dessin animé, mais alors une musique de l'attraction Roger Rabbit à Disney World.
Roger Rabbit.
Ne me demandez pas comment j'ai eu toutes les BO des attractions de Disney World.
Spin. Je veux pas savoir.
Ouais, bah tu t'imagines, c'est un non, on s'appelle pas ça un manège, mais enfin tu fais la queue hein, comme d'habitude à Disney, puis après paf, tu montes dans un petit véhicule, puis après brrr, alors ça tourne pas mal.
Comme
la théière aussi, là, tu vois. Mais là, c'est à Disney World.
Et tu fais la voix de Baby Herman, comme
ça. Ah, je sais pas, mais il t'arrive plein de scènes, en fait. Il y a des courses-poursuites et tout, comme dans le film. Quoi.
Ah ouais?
Ouais.
Elle est toujours en activité ou pas?
Oui, ouais, à Disney World, il me semble que ce truc tourne toujours. On a reparlé de Roger Rabbit récemment dans notre émission, parce que le livre dont était tiré le dessin animé est enfin sorti en France.
Imaginaire, c'est ça que tu veux dire.
Ouais. Et c'est compliqué apparemment parce qu'en fait Roger Rabbit ça avait été fait avec Disney mais aussi avec Warner, avec je sais pas qui, et en fait il y a plein de droits qui ont été repris entre temps et tout, donc c'est une licence qu'on peut plus trop
Ouais, c'est dommage parce qu'une petite suite de Roger Rabbit, moi je dis pas non hein.
Donc on peut encore le voir sur Disney Plus, je sais même pas si on trouve facilement les DVD et tout ça hein.
Je ne sais pas. On retourne du côté du groupe
Bacon. On parlera cartoon tout à l'heure.
Ouais. Pauline, du coup, on disait qu'il y avait un événement organisé par Ludiquement Lourou très bientôt. C'est les 15 heures du jeu, c'est ça? Je me trompe pas?
Non, c'est bien 15 heures du jeu.
Ça sonne bien.
Ouais, ça sonne bien. On joue un peu plus de 15 heures, mais
ah bon? Ah, il triche déjà.
Ouais, ça triche déjà, ouais.
Les 15 heures, ça sonnait bien.
Les 15 heures, ça sonnait bien.
Mais qu'est-ce donc que ces 15 heures de jeu?
Alors, en fait, c'est une sorte de porte ouverte de notre association. On fait ça deux fois par an. Donc, on fait ça au mois d'avril et une plus tard dans l'année, vers le mois de novembre. Et donc, la prochaine, c'est donc le 25 avril. Ça commence dès 9h. Et en fait, on joue jusqu'à de 9h à minuit. Donc, ça fait 15h de jeu.
Eh ben, et ça déborde un peu minuit, c'est ça?
Ça déborde
c'est
un petit peu.
C'est un samedi, hein, rassurez-moi.
C'est un samedi, ouais. On a prévu bien, sûrement l'année prochaine, de le faire sur deux jours. Mais pour que ceux qui travaillent le samedi puissent venir. Mais ça dure à peu près 15h. Ouais. Il y en a qui font les 15h. Qui sont là de 9h à minuit. Je l'ai déjà fait, c'est sympa.
Ça doit être intense.
C'est intense, mais c'est tellement cool. C'est trop bien. En fait, les gens peuvent venir à l'heure qu'ils veulent. Ils peuvent venir dès le matin, ou ils peuvent venir une heure, deux heures. Ils peuvent venir, repartir, revenir. Et toute la journée, on fait porte ouverte. Donc, on joue à des jeux. Cette année, il va y avoir du jeu de rôle organisé aussi.
Eh ben, on y arrive.
On va avoir un peu de jeux de rôle qui sont organisés par nos MJ, qui sont très, très bons à l'association et qui ont déjà prévu des petits scénarios qui vont durer 30 minutes, une heure à peu près, pour que tout le monde puisse y jouer.
Et pas évident ça, 30 minutes.
Hein. Ouais, c'est des scénarios courts.
Je crois que c'est ça, ouais. Ça doit être à peu près ça. Ouais, c'est un peu du one shot. Et on a aussi le soir un gros jeu de rôle caché d'organiser.
Okay.
Qui s'appelle Blood on the Clock Tower, si vous en avez déjà entendu parler.
D'accord, ça me dit quelque chose. Il a pas été fou lancé récemment.
C'est assez récent, je pense.
C'est assez récent.
C'est quoi le jeu de rôle caché?
En fait, c'est tout ce qui est dérivé du loup-garou.
Ok.
Clairement, voilà. Le loup-garou, c'est un jeu de rôle caché et il en existe des tas.
Vous voyez, jeu de rôle caché. D'accord.
Voilà, c'est ça.
Le rôle qui est caché.
Voilà.
Pas le jeu.
Et c'est un gros jeu qui dure, ça peut durer entre 3 et 4 heures à peu près. Voilà. Et c'est assez sympa. C'est, en gros, c'est les mêmes règles que le loup-garou. Sauf que c'est un démon. C'est un démon. Et toutes les nuits, comme au loup-garou, il tue quelqu'un. Et donc c'est assez sympa et en gros c'est pour les adultes plutôt, on est sur du plus de 18, ça parle quand même.
Bon, les enfants seront couchés de toute façon.
Les enfants seront couchés et on en a prévu d'en faire une ou deux dans le week-end quoi, enfin dans cette journée quoi.
Ok.
Donc cool, voilà.
Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça a été financé sur Game on Tabletop et le financement, alors le Let Pledge c'est fini le 7 mars, donc c'est tout récent sur la fin.
Et vous êtes donc, au taquet au Lourou, dis donc.
Ah, on était au taquet.
Le jeu n'est même pas sorti
taquet.
Quoi.
Ils l'ont importé et en fait on a traduit les règles pour pouvoir y jouer. Ah ouais. Et en fait, on était à fond depuis un moment sur ce jeu. C'est vraiment énorme, en fait. Ça change du loup-garou. Ça reprend les règles, donc c'est assez facile de comprendre. Mais en fait, quand on meurt, on ne meurt pas totalement. Et c'est ça, c'est
ça. On peut continuer à jouer, parce que ça, c'est un peu.
Continuer à parler. Et en fait, on se croirait vraiment dans une scène de théâtre quand on y participe. J'y ai participé juste en tant que spectateur et je connaissais en fait les rôles de tout le monde, mais en fait tout le monde se cache, c'est impressionnant quoi.
Ça se joue à combien ?
On peut jouer à peu près une douzaine, pas trop non plus.
Le jeu là sur la plateforme, ils disent de 5 à 20 joueurs.
C'est bien quand on est une bonne dizaine.
Pour des parties de 20 minutes à 2 heures.
Minimum.
Ouais, si on joue à 5, à mon avis 20 minutes ça peut.
Eh oui.
Ouais, c'est peut-être un peu plus court.
Ouais, on est plus vite, on s'élimine.
Mais ça s'approche vraiment du jeu de rôle parce qu'en fait, on va avoir vraiment le MJ qu'il faut qu'il connaisse son scénario. Lui sait en fait les rôles de tout le monde, mais chacun connaît son rôle, mais en fait pas vraiment. Puisqu'en fait, tous les rôles peuvent être échangés, etc. Oh. C'est le MJ qui joue avec tout le monde. C'est vraiment intéressant.
Et ben rien que pour ça, ça donne déjà envie. Alors ça donnait déjà envie d'y aller, hein, mais voilà, c'est encore un petit bonus. Est-ce que tu sais quels sont les jeux de rôle qui vont être joués ? Est-ce que t'as une idée un petit peu déjà ou pas ?
Alors je sais qu'il y en a un qu'ils ont créé eux-mêmes.
Ok.
Pour cette journée-là. Alors ils ont un nom. Ils vont l'appeler, je ne sais plus, bien sûr, je l'ai noté, mais je ne sais plus. Louriwood.
Louriwood.
Voilà.
C'est un rapport avec loup,
je suppose.
Ouais.
Donc voilà, le but étant de faire découvrir aussi le jeu de rôle pendant cette journée et pas seulement les rôlistes qui jouent d'habitude.
Ouais, parce qu'habituellement on les cache quand même les rôlistes.
Non, on les cache pas, mais voilà. Alors il faut savoir aussi que habituellement notre association elle est à partir de 16 ans.
Okay.
On joue qu'en fait principalement entre adultes, hein, la plus jeune à 20 ans. Et cette journée-là, c'est ouvert à partir de 12 ans. Donc c'est okay. aussi pour ça, on essaie de, comme c'est une journée beaucoup plus familiale, on va essayer de faire des choses plus simples.
Ok. Aussi. Bon après, c'est effectivement comme vous jouez à des jeux qui sont souvent du jeu expert, et les enfants ils ont plus de mal en fait à jouer à ça. Je comprends la limite d'âge de jeu de base. Pas forcément une question de thématique.
Oui, c'est pour ça. Et puis on fait des jeux plus simples et on a aussi nos propres enfants, hein, aux personnes de l'association on aimerait bien les faire venir aussi avec nous, mais pas tous les soirs, quoi. Donc juste deux journées dans l'année, c'est très bien.
C'est clair. Tu nous disais que tu ne fais pas de jeu de rôle, toi.
Non.
Étonnamment.
Non, je fais pas de jeu de rôle. Comme je disais, j'ai peur d'aimer ça.
Bon, t'as joué à Blood on the Clock Tower déjà.
T'en as fait un peu.
J'ai bien compris.
Voilà, j'aime bien les jeux de rôle cachés, mais j'ai jamais encore fait de jeu de rôle. Je suis pas du tout fermée au jeu de rôle et pourquoi pas à tenter.
Le rôle caché, c'est un truc qui est pas très très fréquent dans les jeux de rôle, moi je trouve.
Bon, t'as beaucoup de jeux où les gens vont avoir un petit secret qu'ils vont pas vouloir divulguer en fait, mais
c'est Alien, moi vraiment ces dernières années où ils ont dit on va faire comme dans les films. Hein. Oui. Tout à coup, on apprend que moi je suis un synthétique. Mais en fait je travaille pour la Weyland-Yutani et je dois ramener le monstre et du coup je vous enferme tous dans la pièce avec lui.
Ben ces deux jeux-là en fait, chez Arkane, c'est ça.
Hein, Arkane Asylum pour la
Arkane
VF.
Arkane Asylum qui a fait la VF de Alien justement en jeu de rôle. Et ils ont fait aussi Blade Runner. Et effectivement, dans ces deux jeux-là, il y a chacun un petit côté un peu caché puisque on peut être aussi un synthétique. Alors c'est un réplicant du coup dans Blade Runner. On peut ne pas l'avoir forcément déclaré.
oui, c'est vrai.
Ouais. Donc ouais. Mais c'est rare en fait, ouais, effectivement les jeux de rôle à rôle caché.
D'accord. Alors nous, on en a beaucoup dans le jeu de société, de plus en plus.
Ouais. Jeux à rôle caché, Secret Hitler, Time Bomb.
Nemesis, par exemple, qui est un gros jeu avec des figurines, là, où c'est du rôle caché aussi. C'est très sympa.
Il y avait Sport, je crois.
Le truc, c'est aussi faire un coup de pute aux autres.
À quel moment
À quel moment
Ouais. C'est le pseudo-collaboratif.
Ouais.
C'est Room 24 qui est comme ça, où on joue un groupe sur le plateau et on doit techniquement trouver la sortie. Si on s'entraide, on trouve la sortie plus vite. Mais si on s'entraide, on peut pas forcément sortir tout le monde. Donc des fois, quelqu'un va aller faire un petit tour, un petit plongement dans le bain d'acide, ce sera pas mal.
Oui, ouais.
Et ouais. Est-ce qu'il y a quand même des inspirations, jeux de rôle que tu as ou des choses où tu t'es dit tiens ça j'aimerais bien tenter?
Le classique Donjons et Dragons.
Ouais.
J'aimerais bien essayer. Moi je suis une grande fan aussi du Donjon de Nahulbuck.
Okay.
Ah bah. Donc voilà.
Le jeu de rôle est gratuit en plus.
Donc voilà, je connais un petit peu de loin, donc voilà, mes inspirations c'est un peu ça aussi. Donc voilà.
Tu nous parlais l'autre jour, l'autre jour, comme si on se connaissait, on s'est rencontrés il y a une heure. Tu nous disais que l'autre jour justement à l'association, certains des joueurs jouaient à Passiones et las Passiones.
Ouais.
Alors fallait aller le chercher celui-là.
Ça avait l'air énorme.
C'est un jeu de niche déjà, ouais. Dans une petite asso, hein, mauvaise. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en as pensé de voir ce type de jeu-là?
Bah, en fait, ça avait l'air. Je pensais vraiment que le jeu de rôle à la base, pour moi, de ma vision de loin, c'était bah justement tout ce qui est dérivé de Donjons et Dragons.
Et tu as complètement raison.
C'était
c'est
voilà.
Réducteur, c'est Romain.
Mais bon, ouais, je pensais vraiment que c'était ça. C'était ça. Et en fait, je pensais pas qu'il y avait du jeu de rôle complètement différent avec des thèmes. Qui part dans tous les sens, comme on a dans le jeu de plateau, en fait.
Bah, disons que Donjons & Dragons, on a fêté les 52 ans, là, quelque chose comme ça. Donc, heureusement que ça a évolué.
Les variations,
même.
Ouais. Bah, y a plein de thèmes qu'on va retrouver, en fait, dans le jeu de société aussi. Horror Arkham est un gros jeu de société. On a un jeu de rôle basé sur les écrits Lovecraft.
Oui.
De la même manière, il y a des... Parce que maintenant, Lovecraft est beaucoup plus bankable, vu qu'il est dans le domaine public, mais... j'ai appris que Love Letter, par exemple, était passé en version Lovecraft aussi.
D'accord, oui.
Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font aussi des connexions avec des univers de jeux de rôle. Et tout ça s'inspire de littérature. Mais il y a des...
Donc on peut aussi s'inspirer de séries télé comme donc les telenovelas, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Et alors ça a bien plu parce que moi ça me paraît vraiment improbable.
Ah, mais c'était à fond dedans, quoi. Il y avait des divorces, il y avait des trahisons... il y a eu des meurtres aussi.
Ah oui, d'accord.
Apparemment, ils ont tué toute leur famille, je sais plus. Enfin, bref, c'était assez violent, quand même. Je pensais que c'était gentillé, moi, mais non.
Normalement, je sais pas, dans les fois, je regarde pas, hein, donc.
Non, parce que des fois, t'as des meurtres et il revient deux saisons plus tard parce que.
Ah oui.
T'as ce genre de choses-là, dans les télénovelas. En vrai.
J'ai un vieux souvenir des Feux de l'amour, mais sinon.
Ah, bah oui.
Ouais, mais c'est ça, c'est exactement l'ambiance.
Ah non, ça avait l'air très sympa en tout cas.
Est-ce qu'il y a d'autres jeux dont tu as pu entendre parler dans des jeux de rôle où tu as fait ah ouais, mais en fait, c'est complètement différent de ce que je pensais?
Non.
Et question peut-être importante, c'était quoi ta vision de genre de jeu de rôle avant de rencontrer?
Très niche.
Très niche.
Très très niche, un peu cliché, au fond d'une chambre, quatre gars qui jouent à lancer des dés, c'est tout ce que j'avais.
Tiens, d'ailleurs,
genre à la Stranger Things un petit peu, dans les, à la base c'est ça, ils font du jeu de rôle. Hein,
ouais, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, ça a complètement relancé le jeu de rôle, moi je pense.
Ouais. Mais c'est très bien, au contraire, c'est très très bien. Mais j'avais ce cliché là, hein, mais en fait pas du tout, quoi.
En parlant de cliché, tu disais tout à l'heure que dans votre association c'était mixte.
Oui.
Est-ce que dans ceux qui font du jeu de rôle, c'est mixte?
Oui.
Ah ouais, félicitations, cool.
Oui. C'est quasiment à chaque fois autant de filles que de garçons. Donc non, c'est et au niveau des âges, c'est pareil. Ça part de 20 ans jusqu'à, alors je dirais pas les âges, mais peut-être 50, 60 ans, non peut-être 50 quand même maximum.
Ok, il y a quand même un grand ancien dans le lot.
Non, on a des bons MJ, c'est des MJ qui ont ça fait 20, 30 ans qu'ils font ça, hein, qu'on commence avec du Donjons et Dragons, qui créent leur propre scénario, leur propre carte, leur propre personnage. C'est pas juste des passionnés qui ont découvert ça il y a seulement quelques mois. Non, on a des grands MJ qui présentent ça et en fait ils ont l'envie en fait de présenter leur jeu et c'est génial parce que en fait plus ça va, maintenant il y a presque des listes d'attente pour pouvoir participer à une soirée jeu de rôle.
Oui, comment ça se goupille d'ailleurs? Comment vous organisez?
Alors nous, on a pour la pub de l'association, on est principalement sur Facebook et Insta, mais sinon on a un Discord et sur le Discord, on a des programmations en fait, que ça soit au niveau du jeu de rôle ou au niveau du jeu de plateau. Donc on créait des tables et ils créaient aussi du coup des événements pour les jeux de rôle et on s'inscrit.
Et il y a, alors, c'était quelque chose qu'il y avait assez peu avant, mais il y a des campagnes en jeux de rôle qui sont organisées. Vous en avez dans l'association des plusieurs parties qui succèdent pour continuer l'histoire?
Oui. Oui, oui, non, ils jouent en campagne.
Ok.
Ils jouent en campagne. En plus, une fois qu'on sait en fait qui participe au jeu de rôle, ils s'organisent, ils se prévoient des semaines. En fait, c'est pas forcément toutes les semaines le même scénario, en fonction de l'équipe et en fonction de nous. Hein, on est en fonction du boulot de tout le monde.
Oui,
tout le monde peut pas venir toutes les semaines et du coup, on s'organise comme ça.
Ok.
Bon, les telenovelas, c'était un peu des campagnes. Hein.
Je sais. Alors, en fait, je pense que
ça durait combien de temps, les feux de l'amour? C'est hyper long.
C'est
ça
pas
a duré.
Fini encore.
Ça existe encore?
Bah, je crois que ça existe encore.
Oui, shit.
Faut regarder le nombre d'épisodes, mais c'est effrayant.
C'est la plus grande campagne peut-être narrative qui ait jamais été créée.
Bah, en même temps, en fait,
trahison à tous les
des joueurs qui jouent le même personnage depuis plusieurs dizaines d'années. Pourquoi pas? Et puis là, si on le joue en plus des personnages de telenovelas, pourquoi pas en plus? Mais c'est vrai que c'est des univers qui sont très vastes et on parlait de connexion. On a pas mal de jeux de société maintenant qui ont développé des modes campagne justement pour pouvoir. Souvent, c'est les jeux qu'on va appeler Legacy.
Exactement.
Et qui permettent d'évoluer, de faire évoluer son plateau à la manière d'un jeu de rôle parce que les conséquences de chaque partie sont durables sur les parties suivantes. Un truc que moi je surkiffe en fait.
Et pourtant nous ça marche pas tant que ça. On a essayé de faire des campagnes de jeux de avec du jeu de société justement et c'est moins notre truc au jeu de plateau. On a tendance à plutôt être sur du one shot. On joue une fois et un jeu et on le rejoue plus après.
Ah oui.
C'est un peu dommage.
Alors du coup comment vous les achetez vos jeux?
Eh ben on les achète en magasin sur les boutiques qu'on a sur Angers et autres.
Tout est payé avec les cotisations des membres.
Alors en fait, on a une petite ludothèque, donc on a demandé des financements auprès de la ville et auprès de la région. Et en fait, on arrive à avoir une petite base de jeux de société qu'on garde en fait à l'association. Donc on a une bonne centaine de jeux.
Quand même.
Mais comme on est des passionnés, eh bien on a toujours envie de présenter le dernier jeu qui est sorti. Donc c'est souvent
voire même des trucs qui sont pas encore sortis. Comme,
voire même qui sont pas encore sortis.
Blood Tower.
et en fait voilà, souvent la plupart on a notre nouveau jeu, on veut le présenter.
Vous ramenez vos jeux.
Et on ramène notre propre jeu. Et comme on est des gros passionnés, souvent on joue une fois et après on n'y rejoue plus, ce qui est dommage. C'est un peu.
Je ne vous jetterai pas la pierre.
Voilà.
Et tu dis qu'il y a une ludothèque. Est-ce qu'on peut emprunter des jeux?
Alors les membres de l'association, oui, peuvent emprunter des jeux. On demande une caution et en fait après on peut emprunter les jeux sur 15 jours, 3 semaines, comme on veut en fait. Donc dans notre ludothèque de l'association, c'est plutôt du petit jeu. On a du gros jeu, mais on a aussi du petit jeu parce que c'est ça qui sort le plus souvent et c'est ce qui nous permet justement en fin de soirée de faire pas mal de petits jeux, des flip sets, des petites choses comme ça.
Et je rebondis sur la question de Romain parce qu'on a un petit peu dévié. Comment dans l'association vous déterminez les jeux que vous souhaitez acheter? C'est la réputation du jeu, c'est un jeu que vous avez testé, un jeu que vous voulez tester? Il y a bataille peut-être des fois?
C'est compliqué.
Ouais.
C'est compliqué. En fait, souvent, déjà, on décide à peu près avec les membres du bureau. On fait nos propres petites listes, 5-6 jeux à peu près qu'on pense qu'ils pourraient fonctionner à l'association. Et là, sur les prochains jeux, on va essayer aussi de demander aux membres de l'association s'ils ont des jeux qu'ils voudraient qu'on fasse rentrer. On a aussi regardé les statistiques des jeux qui étaient sortis, des jeux qu'on a à l'association. Est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils sortent pas, est-ce qu'ils sont joués pendant les soirées, est-ce qu'ils sont empruntés, etc. Et on se rend compte que c'est beaucoup de petits jeux justement qui sont joués. Parce qu'en fait, les gros jeux, on les a.
Oui.
Donc, voilà.
Effectivement.
Alors, la question, moi, c'est pour les règles. Parce que les gros jeux, souvent, grosses règles. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui se dit, bon, allez, j'emprunte le jeu, puis je lis les règles pendant une semaine, puis paf, je viens et boum, j'explique à tout le monde en 10 minutes et on joue. Ou est-ce que vous prenez vraiment des moments collectifs où vous épluchez toutes les règles en même temps?
Non, fais pas ça. c'est trop long. Non, non, la plupart du temps, il y a un joueur qui connaît les règles. Si on sait qu'on va présenter un jeu et qu'on veut vraiment le présenter, on l'en parle sur le Discord et on dit, bah ouais, allez voir sur Internet pour les règles. Mais la plupart du temps, non, non, on essaye qu'il y ait au moins un joueur qui connaisse les règles. Alors, c'est pas 10 minutes quand on explique les règles. C'est souvent une demi-heure, trois quarts d'heure. Okay. Les gros jeux, c'est un peu ça, hein, ouais, clairement. Voilà, si on sait qu'on a derrière 2-3 heures de partie, on essaye que tout le monde connaisse les règles. Donc, ouais, c'est un peu ça.
Oh, tu parlais des vidéos sur Internet, c'est quand même quelque chose que, enfin, qui est quand même bien, bien pratique maintenant, d'avoir des gens qui expliquent.
Oui.
Sur YouTube, hein, moi, bah, souvent, je regarde.
Par exemple, ils font des explique parties en 5 minutes, on a les bases du jeu.
Ça te montre à peu près à quoi ça va ressembler.
Ouais.
Mais des fois, il y a même des gens, je trouve, qui expliquent mieux les règles dans leurs vidéos YouTube que quand je lis le livret de règles.
Ouais.
Certains éditeurs.
C'est pas faux.
C'est un métier, hein.
Oui.
Non, des fois, on comprend rien. On lit les règles et on fait, mais c'est quoi ça? Je comprends rien. On regarde la vidéo, on fait, ah, c'est bon, j'ai compris.
Bah, et puis, il y a des créateurs de jeux qui ont la réputation de faire des règles. Pas les règles du jeu en elles-mêmes, mais les notices qui sont imbouffables.
C'est plutôt le taf de l'éditeur, moi je trouve, mais bon.
Ah, Histoire de Peluche, Aftermath, c'est des jeux qui sont très bien, mais où les règles elles sont écrites avec les pieds. Je suis désolé.
Voilà. Moi je demandais à mes enfants pour Histoire de Peluche.
Des différences aussi entre la version française et la version anglaise aussi.
Ah ouais?
Ah, ça, on n'aime pas ça, hein. Mais il y en a quelques-unes quand même, hein, où on se rend compte qu'en fait, en lisant la règle en français, il y a un problème, et en fait, ils relisent la règle en anglais, ils font oui, non, en fait, la traduction est mal faite. On a quelques éditeurs comme ça qui sont.
Il y a quelques traductions qui sont un peu.
On les nommera pas,
mais. Je pense qu'elles sont un peu faites dans le rush, quoi, certaines traductions.
Bah, on se demande si elles sont relues, en fait. C'est surtout ça, en fait, par les joueurs. Est-ce qu'elles ont été jouées derrière?
Est-ce qu'elles ont été traduites par un humain?
Ouais, mais ça c'est pas toujours. Mais tu vois, je repensais à ça. J'ai joué dimanche à un jeu, alors qui est entre le jeu de rôle et le jeu de plateau.
Très bien.
Que de mémoire, Romain, tu as Escape from Dark Castle.
Ah oui.
Et il y a quelques cartes qui sont un petit peu traduites avec les fesses.
Ah, t'as joué à la VF?
Moi, j'ai joué à la VF et effectivement, il y a une carte. On était quatre à jouer. On l'a lu une fois, on l'a relu. On a fait. Il y a un problème. Il y a un truc qui marche pas. Et très bien, essayez. C'est des parties assez courtes.
Ah bah oui.
En gros, on est des prisonniers d'un château, le Dark Castle, et on a un certain nombre de points de vie. Et on va retourner une carte qui va nous mettre face à une situation pour laquelle on va falloir qu'on la passe. Et il y a un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs, et à la fin, il y a un boss final. Sauf qu'il y a une façon un peu jeu de rôle, puisqu'on incarne un personnage qui est un archétype.
Ouais, on a sa fiche de perso, qui sont tous un peu
des stades un petit peu
différents. Voilà, ouais.
Donc encore un jeu très proche. Bon, par contre, c'est très old school, hein. La boîte, elle est noire, les dessins, ils sont très noirs. Ouais.
L'idée, c'était de faire un peu un genre de dungeon crawler, mais dans l'esprit un peu livre dont vous êtes le héros, voilà, sorcier de la montagne de feu. Des choses des débuts, un peu craspec, quoi.
Oui.
Même les dessins sont un peu crasouilles, et je crois que c'est fait exprès.
Et puis, c'est quand même globalement hyper violent, en plus. Parce que, on n'est pas des warriors, c'est pas le warrior avec le bouclier et la grosse armure, non. Clairement pas, non, c'est plutôt le pécor qui
avec
mange des pommes pourries,
ouais.
C'est ça. Ouais. Mais très proche.
Ouais.
Moi je me souviens aussi le dilemme du roi, je sais pas si
ah oui, c'est autre chose là.
Chose.
Là c'est du gros jeu,
grande campagne,
en campagne.
Des autocollants là.
Et avec les autocollants. Ouais. Et il y a un très gros aspect un peu Game of Thrones, et nous quand on l'a joué avec des amis, on avait caché, parce qu'il y a une mécanique de jeu qui permet d'anticiper un peu ce que nos actions vont donner en termes de jeu. Et du coup on avait choisi de masquer cette donnée-là pour jouer roleplay nos personnages, puisque grosso modo on joue les conseillers du roi, et on doit aussi permettre à notre famille d'avancer un peu plus avec des petits rôles secrets, en fait des buts secrets. Et il y a l'échiquier politique. Et on l'avait joué de manière rôliste, puisqu'on ne savait pas en fait les actions, l'impact que ça allait avoir sur la suite du scénario. Donc voilà, encore un nouvel exemple. Et ça, c'est un big board qui est très très cool à faire.
Mais c'est un jeu à 85€ que tu peux jouer qu'une fois.
C'est un petit problème.
Ah oui. Ouais, mais nous, ça nous dérange pas, nous.
Est-ce qu'on se referait pas une petite pause musicale, mon cher Romain?
Allez, un truc un peu festif.
Un truc un peu festif. Et puis, on va finir et je mets après. Avant qu'on passe à autre chose, déjà redonner les dates du
15 heures
du jeu. J'ai dire du journée porte ouverte, mais non, les 15 heures du jeu. Si tu les as, Pauline.
Oui.
Je t'écoute, du coup. S'il te plaît.
Oui, c'est le 25 avril au Louroux-Béconnais, au Domaine du Paix, de 9h à minuit.
De 9h à minuit. On peut se restaurer sur place ou faut mieux venir avec son sandwich?
On peut se restaurer sur place si on réserve et sinon, on vaut mieux venir avec son sandwich. Et il y a des snacking aussi.
Okay. Alors, on réserve où?
Alors, on a sur notre Facebook Ludiquement Louroux, on va avoir l'affiche avec un QR code où on va pouvoir s'inscrire si on veut se restaurer. Mais si on veut juste venir comme ça, on n'a pas besoin de s'inscrire.
C'est parfait ça. Et si on veut découvrir vos activités, réseaux sociaux, il y a quoi?
Facebook, Insta, où on partage nos jeux. On les met en photo, comme ça on voit un petit peu ce qu'on fait. Et sinon, sur notre Discord, pareil, Ludiquement Louroux, voilà, on peut avoir toutes les infos.
Et si on veut rejoindre l'association, il y a une cotisation de combien?
Alors, la cotisation, c'est 20 euros l'année.
Okay.
Pour l'association, on a le droit avant de pouvoir payer, on peut venir deux fois à peu près en essayant. Et ensuite, c'est 30 euros en couple.
Oh bah, ça va.
Une petite réduction. Et ça nous ouvre le droit.
La parité à la fin.
Ouais.
Et ça nous ouvre aussi le droit de,
pas forcément.
D'emprunter des jeux aussi, avec une petite caution.
Et ben parfait, le rendez-vous est pris pour les 15 heures du jeu par l'association Ludiquement Louroux, le 25 avril, c'est ça?
Exactement.
De 9h à minuit. On se retrouve tout de suite après une nouvelle pause musicale avec Prince et Partyman.
Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence?
I rock the party, I rock. Radio G. www.radio-g.fr.
Ah là là là.
Vous avez reconnu, c'était dans quel film ça, ma chanson?
Eh ben, alors.
Par les mers. On entend la voix du comédien au début.
Cool Spot?
Non. Ah ouais, ça, tu penses que c'est des trucs un peu dessin animé?
Ouais. Non.
Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'on va parler de jeux de citadins et tout, et de gangsters. C'était dans Batman, hein, la BO de Prince, là. Ouais, Prince,
ah,
c'était
Batman,
la BO.
Batman le défi.
Batman 1989, le premier. Je crois que ça s'appelle juste Batman, non?
C'est le premier Burton, ouais.
Et donc, c'est. Bon, attends, c'est qui le méchant dans le rôle du Joker? Jack Nicholson.
Jack Nicholson. Qui était très très bon.
Très très bon.
Mais de quoi tu nous parles, du coup, Romain, pour après nous avoir mis Party Man comme ça?
Ouais, ben, c'est pas, j'étais un peu en mode, rétro années 80. Alors, donc, il y a un jeu, qui vient de sortir en full lancement, là, Fever Town. J'ai regardé ça parce que je suis le MJ masqué aussi sur YouTube.
Ah oui, je l'ai déjà vu.
En influenceur, jeu de rôle sur YouTube. Et là, il sort son premier jeu. Donc l'idée, c'est un jeu où tu incarnes des flics.
Cool.
Dans les années 80.
Encore plus cool.
Aux States.
Ça va.
Et donc, j'imagine qu'ils voulaient un peu émuler le film de flic américain des années 80. Un peu en mode buddy movie, quoi. Parce que c'est un jeu qui a l'air assez léger et humoristique.
Je suis sur le site parodique, Game on Tabletop où il reste encore 11 jours pour pouvoir participer au financement. Le jeu est d'ores et déjà financé. Et effectivement.
Ouais, parce que le MJ Masqué, il a tous ses petits followers et tout. Déjà, je pense, ça fait un moment qu'il en parle de son jeu. Et je pense que c'était attendu. Et puis, ça me paraît assez original, moi, comme
il y a une vibe alerte à Malibu de flic à Miami.
Alors oui, de flic à Miami.
Un flic avec un autre chaque coup.
Ouais, forcément. Alors il y a un peu deux settings, si j'ai bien compris, qui sont proposés. Et le premier, oui, c'est un peu Malibu.
Et il y a un côté aussi Police Academy.
Ah bah forcément. Alors c'est un peu une uchronie.
Ah ouais.
Il imagine quand même que en 1945. Je sais plus, tel président américain a été élu à la place de tel dans notre réalité, et que les USA, tels qu'on les vit dans ce jeu, sont plus progressistes qu'ils ne l'étaient.
Ok.
Dans les années 80. Il y a moins d'histoires de racisme ou même de sexisme.
Mais c'est
notamment chez les flics.
Ok.
Qu'on incarne.
Eh ben, un jeu de policier qui changera de Berlin 18 ou de Cops.
Cops, ouais. Plus léger, quoi, ouais. Je pense. Hein. Cops qui était un peu... on rentrait un
c'était
peu
c'était le côté un peu dark, hein,
ouais,
du jeu.
Un peu aussi vide de commissariat. Ouais. Et puis, Berlin 13, qui est plutôt... C'est aussi un truc un peu... C'est une uchronie aussi, non?
Ouais, Berlin 18, c'est une uchronie aussi, ouais.
18. Et il y a un deuxième setting, j'ai vu que ça allait développer aussi une histoire de zoo. Alors je sais pas s'il compte un peu agrandir le truc, parce qu'en fait là c'est pas le jeu complet apparemment qu'ils veulent sortir, c'est plutôt une boîte d'initiation. Et
okay.
Puis il dit que si le full lancement marche bien, ils sortiront un gros livre de base ensuite.
Ouais, alors après si c'est une boîte d'initiation, là de ce que j'en vois, ça a l'air... Attends, c'est le pack légendaire, attends... J'ai l'impression, ouais, le starter pack, en fait, t'as trois livrets, des fiches de perso, le tout dans une boîte de jeu, la version Deluxe, t'as l'air d'avoir un roman, une carte du zoo, et une BD, Daddy Callaghan. Ouais, ça a l'air d'être cool, ça. Ça a l'air d'être cool, et puis le pack légendaire rajoute quoi? Un set de 5D Fever Town. Avec des badges de police.
Ah oui, ça c'est assez rigolo sur certaines faces, ouais.
Ouais.
Donc voilà, création française, puis moi je suis un peu dans les trucs un peu rétro 80s et tout, donc.
La DA est cool. C'est, ouais. C'est humoristique un petit peu quand même.
Ouais,
comme
je pense que
droit,
ça
ouais.
Se veut assez léger. Humoristique, je sais pas trop, mais.
Ouais, là, très, très léger en fait, ouais.
Ouais, okay. Le but c'est. Visiblement, c'est ça. Ok.
Et puis sinon, je voulais parler de Helluva Town. C'est pour ça que j'ai ressorti du Roger Rabbit aussi. Donc, dont la version française va être full lancé très prochainement. En fait, j'ai découvert ça dans les news d'Agathe Édition, qui ont un deal avec l'éditeur italien Acheron. Ils ont déjà acheté, il y a Brancalonia, qui est une très belle gamme qui vient de là-bas, qui est traduite. Donc c'est du fantasy spaghetti, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis après, ils ont fait des trucs un peu plus sérieux. Ils ont fait Inferno, Apocalypse, qui sont des settings un peu dark pour la cinquième édition là de Donjons & Dragons. Et puis ces Italiens avaient aussi fait ce jeu Haluva Town, je crois qu'il est sorti l'année dernière, donc en version italienne, en version anglaise, qui est un jeu où on incarne des toons.
Et pourquoi Haluva du coup?
Alors Haluva Town parce que moi je pense que c'est un surnom de New York en fait.
Ok.
Il y a longtemps, au moins depuis la chanson New York qui sort d'une comédie musicale des années 50 ou 40. Et bon, c'est un peu l'enfer aussi, hein, regarder les visuels. Alors là, pour le coup, là, moi, je suis tombé de ma chaise.
Très rétro, en fait. Années 40, 60 ans.
Quand j'ai vu les visuels du jeu, j'ai dit, waouh, c'est du toon à la... ouais, ça, plutôt début.
Tout début, ouais.
Ouais, années 30, années 40, le dessinateur du jeu... je crois Spencer Dickinson, c'est le monsieur qui dessine les comics qui sont tirés du jeu vidéo Cuphead, ça ?
Yeah, Cuphead, ouais.
Cuphead qui avait bien relancé un peu la mode toon.
Complètement.
En jeu d'arcade.
Ouais.
Et donc le truc a tellement marché, je crois qu'il y a une série animée, il me semble.
Cuphead Show, ouais. Qui est très
cool. Et puis il y a aussi des comics, et il y a eu 3 tomes donc, de ces BD qui sont sortis en France aux éditions Pix & Love. Et donc là, je crois que les Italiens ont été chercher le dessinateur de ça pour lui dire, bah toi, tu vas nous faire des Mickey comme dans les années 40, mais aussi un peu des Betty Boop, tu vas nous faire des petits diables et tout. Et alors moi, quand je vois ça, je me dis, je veux jouer ça.
Mais c'est rigolo parce qu'en fait, la version originale a été faite sur Kickstarter.
Ouais.
Les pledges ont commencé à être livrés à partir du 6 mars de 2026. Ouais. Et là, on a l'annonce sur Ulule de la version française, voilà, qui sortira bientôt. On n'a pas la date de démarrage, mais vous pouvez déjà saisir votre adresse mail et quand ça sort, bah, vous aurez.
Ouais, on en parlera. Le jeu se joue. Le système est très simple et ça se joue avec des cartes qui ont l'air un peu en mode carte de poker. Donc il y a aussi un jeu de cartes avec ce jeu qui a l'air très très beau, forcément. Mm-hmm. Et donc ça se passe dans un quartier, Haluva Town. En fait, c'est un quartier dans New York où vivent les toons. Et on reste plutôt entre toons, si j'ai bien compris, et ça reste des histoires de gangsters. Il y a 4 bandes un peu qui gèrent le truc. Et voilà, je n'en sais pas plus, mais je suis complètement hypé par cette chose.
Alors, est-ce qu'on a... Ouais, ça a l'air d'être vraiment
l'air
très,
très
cool.
Très, très bien.
Alors, il y a une seule vidéo que j'ai trouvée française sur Haluva Town, c'est... comment s'appelle-t-il ? Geek Power. Qu'a présenté donc le livre en VO, et donc il y a un petit retour d'expérience. Il dit que me jeter 1h30 de Haluva Town, tu ressors aussi crevé que dans 6 heures de Donjons & Dragons.
Ah ouais,
parce que t'es vraiment en mode toon,
donc tout le temps
dans l'action, et donc apparemment c'est un même le mode de jeu est fait pour que ce soit frénétique, quoi.
Ok, eh ben pourquoi pas, hein. C'est là où les parties courtes sont intéressantes.
Non, mais les images sont très très Roger Rabbit, comme tu disais tout à l'heure. Hein. On s'y croit.
Alors oui, il y a aussi ce côté adulte aussi, je pense. Ça reste l'histoire de gangsters. Bon, voilà.
Bah, sur l'image de couverture, on a quand même un lapin psychotique avec une tronçonneuse.
Oui.
C'est Roger Rabbit sous acide, hein, clairement.
À la Betty Boop en mode diable, très sympa aussi. Hein.
Ouais, ouais, la théière, j'ai pas fait gaffe qu'elle a une sulfateuse, la théière.
On peut incarner une théière aussi, ça c'est, il y a différentes, dans les classes de personnages, tu peux jouer un petit gris par exemple, et tu peux aussi jouer un objet animé.
Très cool. Bah, ça rappelle un petit peu, alors, à voir comment ça jouera, mais le très vieux Toons, qui a une réédition récente.
Ah
en
bon,
plus.
Je savais pas. Ouais. C'était un jeu des années 90, ouais.
Ouais. Où on joue justement des Toons. À voir s'ils maintiendront ça aussi dans le financement participatif de la version française, mais sur la version anglaise, il était possible d'avoir un dessin personnalisé par Sean Dickinson. Bon, fallait mettre la main au portefeuille, mais c'est toujours un petit bonus, quoi. Ouais, j'essayais quand même de tapater tout à l'heure en disant que le jeu de rôle c'était pas cher. Là, en l'occurrence,
non, voilà.
Alors, ce jeu de rôle n'est pas très cher, hein, parce que le livre de base fait 150 pages. Il y a une espèce d'artbook, mais qui décrit un peu Haluva Town aussi. qui fait 80 pages. Enfin bref, ça restait très abordable. On espère que Agathe va nous proposer des tarifs à l'italienne.
C'était 31$ en version physique, le bouquin de base. Ça va. Ça va, ça va. Il y avait plein de trucs. Hein. Il y avait des t-shirts et des stickers. Il y avait plein de trucs. Très cool. Très très cool. Ben voilà. Très vite. Allez plus vite. La suite.
Et je voulais. je peux pas mentionner l'Angers Geek Fest quand même qui arrive dans une dizaine de jours.
T'as pas beaucoup de temps.
Il y aura plein de clubs, notamment de jeux de rôle, hein, les Gardiens de la Légende. Alors je découvre la guilde du Glouglou aussi, qui est le c'est le jeu de rôle du collège de Longuet-Jumelles.
Okay.
Les héritiers de Dumnacus, le destrier de l'Apocalypse aussi, je les découvre. Ils sont plus au nord vers Précigné, Sablé-sur-Sarthe.
Okay.
Et puis les arts ludiques et les dés angevins. Donc avec ça,
et ben vous aurez la possibilité de faire.
Et puis
plein
on aura Sébastien Cellerin sur le stand imaginaire.
Ah ouais.
Qui viendra peut-être vendre ses exemplaires de Brindlewood Bay s'il lui en reste.
Ah ouais.
Après au Star ce week-end.
Non mais en
donc,
fait.
Passer nous faire coucou, peut-être même jouer avec nous.
Sébastien Cellerin, on va finir par être angevin quoi.
Voilà, on va l'incruster dans cette émission à la fin.
Eh ben c'est parfait. On arrive sur la fin de cette émission. On remercie encore Pauline de nous avoir accompagnés tout au long de l'émission. On rappelle que le 25 avril, vous avez 15 heures de jeu de Ludiquement Lourou ou Lourou Béconnet. C'est une entrée gratuite, c'est ça, hein, j'ai oublié.
Exactement. Ouais.
Et il y a possibilité de faire plein de choses. Merci à Romain de m'avoir accompagné également pendant cette émission. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble les voies du scénarium. Bonne soirée à tous.
Salut.